Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là, chapitre 7, l'office des morts. Première partie, le cri dans la nuit. Ce fut quelques heures seulement après la rentrée d'Augustin. Cette nuit-là, le destin parla très haut. Christine dormait en une fauve lueur rougeâtre qui imitait la veilleuse, lui ressemblait en plus éteint, était une sorte de veilleuse pour songe. Il existait un objet qu'elle devait absolument trouver, un objet indispensable à bébé. Elle cherchait en une chambre très différente de sa chambre véritable, familière cependant, et le sentiment de cette différence se promenait à travers le rêve. Elle ne voyait rien. Elle tâtonnait en des coins d'ombre rouge. Une voix disait « Ce n'est pas là, ni là, ni là. » Quelle voix ? Celle d'Augustin, qui est dans la chambre. Il prend despotiquement la recherche en main. Il emporte dans ses bras quelque chose et elle suit comme elle peut de ses jambes lourdes. Qu'est-ce donc qu'il emporte dans ses bras? On voit son dos déjà loin. Elle suit mal, avec de lourdes jambes irremuables. Un petit gémissement, un soupir. Qui vient d'où? Mais d'où vient-il, grand Dieu? Mais naturellement, de ce qu'Augustin emporte dans ses bras, malgré tous ses efforts à elle, et son angoisse de suivre, et le souvenir de vieille rancune, il emporte bébé dans ses bras. Tout s'immobilise, une sorte de panne dans la machinerie du songe. Un coup de vent balaye les images vaines, d'autres, d'étoffes plus fortes, remontent des magasins noirs. C'est dans la vraie chambre, à la lumière de la veilleuse véritable, que battent les derniers pas de la fuite d'Augustin, dans la chambre garnie de la grande armoire et du berceau de bébé. Le petit soupir entendu surnage à peu près seul dans la liquidité nocturne retrouvée, d'un rougeâtre redevenu réel. C'est bien bébé qui a gémi. Son souffle agite imperceptiblement l'arc mou des lèvres au rythme rapide de l'enfance. Il faut, pour le voir, être tout près, penché sur les bleuâtres petites paupières. Christine lui rit d'amour et de pitié, sur la pointe extrême d'une tendresse dont les pleurs même n'abaisseraient pas l'attention. La nuit est tiède et douce. Très grand silence. 3 heures du matin. Tous les bruits s'étalent entre des marges spacieuses. Les battements sourds envoyés à travers la maison par la pendule de la cuisine laissent passer le déclic métallique qui précède le chant des heures. Un espoir en la Sainte Vierge habite ces moments noirs d'avant l'aurore. Le sentiment qu'il existe quelque part pour Christine et son petit enfant, en d'imprécises régions conçues sur le modèle du très haut espace, une sorte de copie agrandie de sa tendresse, un réservoir de puissance à peu près infini, et, dans l'arrière-fond, un sourire royal qui ne dirait pas son secret. L'intuition s'accentue sur les mots « pleine de grâce » et « priez pour nous maintenant » de l'Ave Maria. L'express de 4 heures du matin, dépouillé de son acuité déchirante par d'immenses étendues nocturnes, siffle et diminue dans des parties confuses de la nuit. À ce moment, bébé poussa l'inoubliable cri. Christine en sentit d'abord la pénétration indolore et filante, avant l'affolement et la terreur, un cri aigu, brutal, subit, d'animal qu'on égorge durant son sommeil. Il y eut un mouvement de la petite main entre le front et la couverture. Puis, l'enfant se calma et se rendormit. L'affreux désarroi maternel heurtait autour de lui toutes les parois du possible. Ce ne peut être une piqûre, une coupure. Une dent qui perce n'amène pas ce cri. La lampe éclaire les yeux clos et l'intact visage enfantin. C'est autre chose. C'est la vieille horreur innommée qui se bat, on ne sait où, contre la vie dans les profondeurs d'un corps d'enfant. Mais quoi donc, mon Dieu? Mais quoi donc? Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Christine sanglote à petites secousses sur ses deux mains pressées et jointes. Elle n'est pas seule à avoir entendu. Des portes s'ouvrent dans ce silence qu'elle trouvait si doux. Augustin arrive, ardent visage d'insomnie. Qu'est-ce que c'est donc? C'est bébé qui a crié comme ça? La vieille maman aussi est venue. Elle a jeté un peu de laine sur l'anatomie pitoyable de sa vieillesse. Elle est coiffée d'un bonnet. Ses cheveux gris fer, embrouillés par la nuit, tombent sur des yeux d'une tendresse si calme devant la douleur, ancienne connaissance. Il est bien naturel qu'elle soit là, de jour, de nuit. Cette porte s'est ouverte et elle est venue. Quoi de plus simple? Mais sa présence, qui continuait si bien les soucis de Christine, qui semblait moulée sur eux, se montre brusquement comme il convient que sa fille la voie, dans sa réalité indépendante, à la seule lumière de la santé de sa mère. C'est une vieille femme malade, qui ne devrait pas se trouver au milieu de la nuit, au chevet d'un enfant. Va te recoucher, pauvre maman. Va vite, que veux-tu? Nous ferons revenir le médecin. Augustin ira le chercher. Les bras de Christine se referment sur le vieux corsage de laine. Puis, entassant d'un seul coup toutes ses anxiétés dans un compartiment qui lui appartiendrait en propre, où seule elle aurait pour le moment le droit de pénétrer et de s'affoler tout son soûl, sans que personne y regarde, faisant pour se mêler à autre chose un effort héroïque. « Es-tu content de ton dîner, Augustin? T'y es-tu intéressé ?» Ils s'en retournèrent tous les deux, la grand-mère et l'oncle, vers les chambres obscures. Augustin croit sentir, venant de la cuisine où il a déposé leur tige dans l'eau, un ténu parfum de rose, petit rappel d'une immense insomnie lyrique. Christine se retrouve seule. Les rideaux s'agitent d'une ondulation longue qui descend d'en haut jusqu'au sol. Il fait du vent, le premier vent de l'aube. De très faible amplitude, né sur place et finissant à quelques centimètres, il remue les rideaux comme un doigt. Ce cri a changé toute chose. Christine sent maintenant, perceptible dans l'air même de la chambre, un effrayant danger inconnu, comme une présence masquée, capable elle aussi de remuer des rideaux du bout de ses doigts. Toutes les craintes d'avant n'étaient rien, c'est maintenant qu'elles commencent. Il va falloir voir juste, se battre dur. Des puissances d'action désespérées se lèvent au cœur de Christine, quelque chose d'une gravité, d'un sérieux écrasant. Le chapelet de tout à l'heure, c'était, autant dire, rien. Une broderie, une musique, une espèce de fleur en un vase, tout ce que vous voudrez de léger. Il faut une prière forcenée, profonde, inlassable, capable d'ébranler Dieu. Christine est à genoux sur la descente de lit, contre son lit défait. Une neuvaine de messe avec communion, malgré de terribles difficultés d'horaire. une autre neuvaine de reconnaissance après la guérison, un départ pour Lourdes et pour Lisieux plus tard. Ce sont des moments. Il faudrait, dans la direction de Dieu, comme une prière perpétuelle, une tension permanente. Il faudrait qu'elle prenne chaque matin et pour tout le jour le sentiment d'un besoin de Dieu éperdu, précis, spécial, dans l'immense besoin général. « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Il y a des spécialistes de ces supplications-là. Elle écrirait aux Clarisses où est Marie. Ainsi pénètre-t-elle le monde de la prière avec cette intensité, cette clarté dans la profondeur qu'elle partage avec Augustin en d'autres royaumes que lui, des royaumes où il n'entre pas. Dans la longue raie verticale que fait l'entrebâillement de la fenêtre, une grandissante dilution de la nuit tend au noir-gris, au gris de brume, au gris de l'aube. L'horloge envoie à travers les briques les coups d'une heure dont le compte a commencé trop tard, peut-être 5, peut-être 6 heures du matin. Malgré quelques petits gémissements, bébé n'a pas cessé de dormir. Vous avez fort bien fait, madame. Pour toute nouvelle inquiétude, il faut évidemment m'appeler. Les 4 adultes sont là autour du berceau. C'est le plein jour et toute l'apparence défaite des appartements dans le désordre du matin. Le médecin, d'un œil fixe, distrait, suit quelque immobile rêverie. Fort bien fait. En somme, récapitule-t-il, ce cri qui vous a frappé, comme s'il avait reçu une blessure, et aussi, naturellement, les vomissements de lait. 4 biberons bien bu, n'est-ce pas? Et le 5e rejeté. Mais là, franchement, envoyé net, droit, comme un beau jet. Son geste dessine la parabole. Puis, adressé au bébé, un ton de reproche amical, comme d'une chose qu'on n'eût pas cru de lui. « Voyez-vous ça ?» Un air de plaisanterie, mais qui reste noble, mesuré et condescendante. Imprègne l'interrogatoire. Personne ne la goûte, il est vrai, aucun des adultes, ni, naturellement, la petite forme somnolente. Un jeu bizarre se joue, qui change les symboles et les âges. Toute l'attitude du médecin, son détachement, sa légèreté, son apparente songerie n'est qu'enfantillage. C'est elle, la petite forme, qui possède le secret des pensées sévères. Sous les paupières mauves, ses graves yeux d'enfant malade mènent une rêverie tellement lointaine et si peu terrestre qu'aucun adulte ne pourrait se hausser à ces altitudes de méditation solitaire au-delà de la crainte et de l'espérance. « Voulez-vous que je le démaillote, docteur ?»« Oh, un instant, madame. Je pourrais très bien prendre son pouls, comme l'enfant est là, sans le déranger. » Ses yeux s'arrêtent non seulement sur son remontoir, mais aussi sur la brassière respirante, la fixe, la pénètre, reviennent au chronomètre. Ont l'air de retourner chercher une sorte de point de repère quelque part au fond de sa propre tête, à lui le médecin. Quoiqu'aucun de ses muscles ne bouge, on voit très bien la double vie du regard, intérieur, projeté devant lui, et de nouveau intérieur. Il faut que ce soit chose bien complexe, pleine de subtilité et d'inconnu algébrique, que de prendre le pouls d'un petit enfant. « Assieds-toi, maman, » fait Augustin à voix basse en lui glissant une chaise. La vieille femme fait « non, non » de la tête, puis s'assied. Le docteur prononce des « oui, évidemment, oui » et autres remarques pareillement illuminantes. Son visage n'a pas quitté son air de distraction, de paresse active et capricieuse. C'est ce silence qui est insupportable, et aussi cette technique de recherche où Augustin n'a aucun repère, dont il ne sait pas même si quelque chose la distingue d'avec les simples gestes de l'incertitude et les explorations du hasard. À quoi s'amuse cet homme? Il redresse lentement de petits genoux pliés, il allonge un corps pelotonné. Parfois, c'est la surrection des jambes maintenues à angle droit avec le buste pour mieux montrer leur amollissement et les longs plis de peau inutiles. L'absence de connexion est vraiment trop marquée entre des jambes d'enfant, des vomissements et un cri. C'est du hochet en forme d'anneau pendu au petit berceau qu'il joue maintenant, le médecin. Augustin reconnaît ce vieil anneau d'ivoire, familier à sa vie d'autrefois, de très anciens moments, décollé de tout passé précis, remonte d'une enfance ressuscitée. Les yeux de l'observateur, ces fixes et profonds yeux d'énigmes et de recherche, ne perdent pas de vue ceux de bébé. Toute la légèreté factice du début, disparue de partout ailleurs, c'est comme réfugié dans le langage et sur les lèvres, en une exaspérante imitation du parler enfantin. « Beau zouzou, il est beau, le zouzou, il est beau !» Le médecin l'agite, la balance, l'expose contre le jour, réveille un minuscule grelot d'argent qui rend un grêle son de jouet et de Noël. Le bébé le suit un instant, puis, dédaigneux, retombe dans sa rêverie. Étrange minute. Toutes ces puérilités, chargées de sens obscurs, mariées à cette solennité d'un regard d'enfant, semblaient du tragique pour marionnette. Augustin sentait suinter et couler en lui une petite angoisse fine. Après tout, on ne savait jamais. Les portes de la cuisine battirent. À travers trois pièces désertes, vint le bruit des brocs pleins raclant sur des pierres. La grande Marie était là. Logée au creux de la nuque, avec une grande douceur technique et maternelle, la main du médecin hochait imperceptiblement la petite tête, comme par plaisanterie, pour obéir aux règles d'un jeu, pour s'assurer que le pivot était bien graissé. « Il est fort bien sur son oreiller, ce bébé-là. Ah oui, oui !» Oui, il est bien. Mais bébé ne goûta pas le jeu. Une grimace de déplaisir plissa le coin de ses lèvres et la lumière des yeux perdit toute portée métaphysique. Comme le médecin continuait son inoffensive taquinerie, la faible voix gémit. Christine contenait une sorte de tension tremblante. Il ne faut pas l'ennuyer, dit le médecin. « Gêné comme d'une maladresse. Laissons-le, ce petit, qui n'a pas envie de jouer. » Il se leva. « Rien de bien décisif, » dit-il en regardant Christine droit dans les yeux, comme si toute question d'elle dût s'arrêter net au bouclier de ce regard. Et, hâtif d'une seule traite, sans interruption possible, donnez-lui régulièrement, toutes les 3 heures, la petite cuillerée de potion, oui, la même, au citrate de soude, contre les vomissements. N'oubliez pas le bain, tous les soirs. Donnez-lui en un autre, cette nuit, s'il est agité, s'il crie comme il a fait. « Docteur, fait Christine, mais enfin cette maladie qui continue après cette entérite guérie. » « Oh, ça, pour ces crises-là, vous savez, mon avis est qu'il n'y a qu'à attendre. » Et il cherche. « Christine, dit la grand-mère, il n'y a plus de potion. » Il cherche autour de lui, par terre, dans l'air, à hauteur d'homme. Ses gants? Non. Quoi donc, alors? C'est une chose qu'il cherche à dire. Il la cherche comme si elle existait parmi les choses touchables. Je voudrais... Oui, peut-être. On pourrait essayer une petite piqûre apaisante qui réussit assez bien dans des crises comme celle-ci, qui calme la douleur, utile aussi dans les convulsions sans gravité qu'on peut craindre. Oh, une petite piqûre sans aucun danger, répéta-t-il. La petitesse étant sans doute garante de l'innocuité. Vous allez peut-être chez le pharmacien, monsieur, pour la potion. Descendez avec moi.
Oui, fait Augustin étonné.
Je vous expliquerai en route ce qu'il faut commander pour cette petite piqûre.
Voyons, voyons, madame, il ne faut pas être pâle comme cela. Il faut être plus raisonnable.
Christine, détournée du médecin, d'Augustin, de toute la chambre, regarde sa mère, et face à la familiarité du vieux visage, laisse pleurer en rares larmes spasmodiques, par doses distinctes et brûlantes, le désespoir d'un pressentiment sans nom.
Voyons, voyons, madame, continue le médecin.
Ma petite Christine, fait Augustin, posant sa main sur une épaule secouée. Et son ton dit,
c'est si disproportionné avec le danger réel.
Cette désapprobation sort de toute son attitude en des sortes de mots silencieux. Il se tourne vers sa mère pour la prendre à témoin, pour chercher un appui à son opinion, pour lui conseiller à elle aussi la tranquillité nécessaire. Mais sur le vieux visage gris-pierre passa un bouleversement muet, où toutes les douleurs, l'actuelle, celle d'autrefois, celle pressentie, se mêlaient dans une longue science de la souffrance. Ce ne fut qu'un instant, non vu par Christine, à peine saisi d'Augustin et par hasard. Sur le champ, les réquisitions de l'activité, Christine qui peut regarder, bébé qui peut avoir besoin de tout, reconquiert la pauvre femme, rejette hors de son présent ce grand pressentiment sombre dont Augustin ne sait s'il est plus infondé ou plus terrifiant.
Monsieur, fait le médecin à Augustin, à peine dans la rue, je vous ai demandé de descendre parce que je vous dirai à vous ce que je n'ai pas dit à ces dames.
Deux yeux fixes, droits dans les siens, expriment une attention stupide et d'une immobilisante intensité. Il existe ce qu'on appelle le cours normal et raisonnable des choses, des affirmations, comme « le sol est dur, je suis en vie ». Elles sont le sens commun, les bonnes vérités solides. Elles vous soutiennent de leur fort appui, du moins l'ont-elles fait jusqu'à la minute précédente. Or, précisément, voici qu'elles commencent de paraître singulières, comme si elles allaient se mettre à tourner. C'est toujours ainsi qu'en change le monde. Augustin voit la voiture neuve du médecin. Elle est belle. Elle est garée un peu plus loin dans un renfoncement du trottoir à cause des charrettes de paysans qui encombrent la rue. Ils s'y dirigent, le médecin et lui. Il est tout naturel qu'ils s'y dirigent. Ils la dépassent. Ils marchent tous deux, à pas lents, vers des endroits quelconques, on ne sait où. Les quelques mots qui suivent augmentent le relief et le poids des premiers, leur donnent une densité de choses véritables et le droit de développer désormais en une lente vraisemblance tout leur don d'épouvante.
Je voudrais me tromper. Je ferai à cet enfant ce soir ou demain une ponction lombaire pour être sûr. Mais je crains de l'être déjà.
Dans la pensée d'Augustin, à la fois raidie et effondrée, tous les bruits de la rue entrent avec aussi peu de résistance que dans la chambre d'un mort. Des gens passent. Un homme conduit un cheval à la main et fait « Oh là, oh, oh là, oh !» Une grosse ménagère crie « Je lui avais bien dit, je lui avais bien dit !» C'est au milieu de mots pareils et tout simples, de toutes ces choses qui restent les mêmes,
contre des carrioles, des maisons, des empilements de fromage sur le bord des trottoirs, exactement comme dans toutes les foires, dans cet ensemble inaffecté que de terribles explications techniques, des phrases sans chaleur ni froid, d'une brutalité impassible, vont la remettre debout, cette conscience inerte, et qui s'effondre sous un martèlement de poings durs. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas la pauvre mère. Suivent tous les termes de cette vérité, objectifs, multiples, détaillés, convergents, à laquelle, en d'autres domaines, Augustin avait conduit jadis sa dure et orgueilleuse douleur. Le beau cas classique, tous les symptômes, somnolence, amaigrissement continu et lent, cris dans la nuit, bien connu, bien décrit, qui a un nom. Raideur douloureuse de la nuque, intolérance d'aliments, vomissement sui generis, sans effort en fusée, qui a un nom, lui aussi. Irrégularité du pouls et de la respiration, commençant, je le veux bien. Troubles oculaires, commençant, eux aussi. Et cependant, vous avez vu, n'est-ce pas, ce manque de parallélisme dans la vision latérale. Le droit interne de son œil gauche est déjà paralysé. Horreur. Horreur. Nous ferions mieux de descendre du trottoir un instant. Un homme en blouse bleue y marche devant lui, sans regarder, porteur d'un sac énorme, grisâtre, et qui sent le grain. Il n'est pas malade. Il est lourd, rouge, fort. Il sue. Attention, attention, cette voiture nous écraserait bel et bien. Et quelques pas plus loin, un coup de chapeau respectueux à une vingue passante en noir. Le monde continue d'exister comme auparavant pour le médecin. Une épouvantable lumière commence de luire, lampes successives dans la suite de caveaux, ce coin-là, cet autre. Bien sûr, Augustin a vu ce geste de la main sous la nuque, ces jeux puérils avec le hochet. Mais sous toutes les petites formes qu'avaient choisi de prendre les énigmes mortelles, il ne les résolvait pas. Ce médecin qui croit qu'il a vu, lui, Augustin, mais il n'a pas vu. Là aussi, il ne voit que ceux qui sont préparés à voir. Banalité de méthodologie scientifique qui passait, reconnaissable pour qui vous a tant aimé. Rien dans son esprit qu'une sorte de passivité foudroyée, une sensation d'assommé, une perte brusque de toutes les vraisemblances de la vie. En deux mots, je crains, je fais plus que craindre la méningite tuberculeuse. Où a-t-il pu l'apprendre? Ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il l'a. Ça ne pardonne jamais. 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 Trois petits coups secs donnés de haut en bas par son poing droit fermé, comme trois coups de pompe. Augustin eut le soubresaut purement physique de l'animal capturé. « Mais enfin, docteur, il y a 8 jours, il y a 15 jours, quand je vous ai appelé pour la première fois, vous auriez dû le dire. Tentez tout. Appelez un confrère en consultation, je ne sais pas, moi. » Le médecin haussait les épaules avec une lenteur infinie. Toujours les mêmes, ces réflexes de la douleur, chez l'homme de haute culture et chez le paysan. C'est le déterminisme du désespoir. « Cher monsieur, c'était mortel dès la première présence du bacille de Koch, il y a 8 jours, il y a 15 jours, dès le vomissement initial, quand il a pour la première fois sali son berceau. Mais pour révéler leur sens, les faits prennent du temps. On ne fait pas de ponction pour un seul vomissement. Il avait 40 sens possibles. Vous êtes tombé sur le mortel. » Puis la seconde partie de la réponse. « Un de mes confrères d'ici, Je ne crois pas leur supplément de lumière très désirable. » Augustin se rappelle Christine parlant de compétences douteuses ou d'habitudes vieillies. Faible apport, en effet. « Je vous aurais volontiers indiqué un confrère de Clermont ou de Saint-Étienne que nous aurions eu demain. » Soudain, net coupant avec un brusque retour aux techniques. « Écoutez, monsieur, c'est inutile. Je ferai ce soir même une ponction lombaire qui tranchera la question. »«
Ah, qui tranchera ?»«
Oui, on peut toujours courir la chance que ce soit une méningite cérébrospinale. » »«
Ce serait une chance ?»
Je n'y crois guère. Le microscope dira si le liquide a le bacille de Koch ou s'il ne l'a pas. Et s'il l'a, il est parfaitement vain d'appeler le président de l'Académie de médecine ou qui que ce soit au monde. Tout ce qu'il y a à dire est dit, y compris sa légère réaction d'orgueil de médecin assez jeune, au visage d'arriviste intelligent plus compétent que ses confrères. Moment très court. Que la pitié recouvre vite. Je vous dis tout cela, monsieur, pour que vous puissiez laisser la pauvre mère à ses illusions le plus longtemps possible et l'assister quand la vérité se découvrira. Avec une douceur inattendue, votre mère va bien. Augustin répond machinalement. Je n'ai rien remarqué que cet essoufflement. Assez sec et pressé, oui. Dyspnée, d'effort, battement de cœur, un peu de tout. Il faut faire attention, de ce côté-là non plus, une émotion n'est pas très indiquée. Enfin. Augustin commença de subir des heurts de foule nombreux, durs, subis, de gros heurts matériels, de brancards, de coudes, de perches en bois. La vie de cette foule agricole et rurale agitait dans ses yeux des couleurs, des formes, des mots qu'il ne comprenait plus. Interpellé, injurié par des gens dans ses remous, rien ne traversait sa torpeur et ses ouates. Pas même un mot qu'il se disait à lui-même. Il se répétait qu'il fallait aller à la pharmacie. Oui, évidemment, la pharmacie. Il sentait le flacon vide dans sa poche, poli et rond. Il respirait d'une poitrine étroite. Il finit par se dire qu'il ne faisait vraiment pas assez attention, qu'il valait mieux longer les maisons. Longer les maisons, n'est-ce pas? C'était plus sûr. Un gros instinct, comme celui de respirer, d'ouvrir les yeux, pas beaucoup plus compliqué, se chargeait à peu près de le conduire sur les sentiers creusés dans cette masse humaine. Il marchait seul, en marge de foule vaine, en un terrible cercle de silence que tous les bruits du monde ne traversaient pas. Il se disait aussi « C'est incroyable, c'est incroyable !» Le mot s'étalait largement dans ce cercle de silence, avait l'air d'y faire des ronds ou des échos. En face de lui ou à ses côtés, la fontaine, les maisons, les réverbères, les bonnes choses fidèles, les bonnes choses démenties, restaient debout dans leurs emplacements de toujours. « Ce n'est pas possible, c'est incroyable !» Ainsi parlaient les bonnes grosses vérités quotidiennes, les vérités qui ne savent rien. Il marcha ainsi quelques pas, une trentaine, devant trois ou quatre façades de maisons, jusqu'à une charrette qu'on finissait de charger. Soudain, il se sentit furieux, d'une haine à la fois si retenue et exaspérée. Curieux contre cette foule, contre sa gêne, ses bruits, ses odeurs de basse-cour et de paille, toutes les parties de son métier de foule, furieux d'une fureur obscure, comme d'un mauvais procédé à son égard, d'un grief personnel indépendant de la mort de l'enfant. Il réagit contre les heurteurs, ceux qui écrasaient ses pieds, ceux qui le poussaient de l'épaule, ceux qui lui criaient de faire attention dans leur odorant patois gras. Il réagit moins par mépris infini que par invective intérieure. Tous ces gens-là vivaient. Ce qu'ils faisaient s'appelait vivre.
Vivre, c'était l'instinct de s'ajuster à tout ça, de vendre, de rire, de ruser, de manger de la viande, de crier « Huot !» à des chevaux. Il y avait entre eux et la mort une espèce de glace sans teint où se silhouettaient leurs gestes. Mais ils ne voyaient donc pas l'autre, la grande chose noire, derrière la glace. Ils se ruaient de ci, de là, sur les places de commerce. Imbéciles ! Elles s'arrêteraient bien, leur ruée, pourtant. Elles buteraient bien contre la chose noire un jour. Tous cachaient sous leurs habits des points malades et hors d'usage, des luttes de microbes, de petits boutons rouges et d'autres saletés, tapis à l'intérieur de leurs blouses. Il y avait une chose accrochée à chaque unité de ces foules, d'autres foules, de toutes les foules. Une chose accrochée à tous les degrés d'intériorité, d'incognito et de souffrance, dans tout le mouvement et le bruit de leur vie. Souverainement calme, elle-même, et liquidatrice, qu'on appelle la mort. Et puis sa fureur se dégonfla, s'aplatit. Pourquoi cette rage qu'il avait eue? Quelle rage? Et contre qui? Est-ce qu'il ne savait pas les règles du jeu? Elles étaient terriblement froides et simples et connues de toujours. Il y avait dans cette rage-là qu'il venait d'avoir quelque chose d'obscur et de singulier, une révolte inepte qu'il ne comprenait pas. Un gros homme le heurta, prospère, beau baudrequin de chasse, loupe dans le sourcil. Il se laissa heurter. Il marchait de nouveau dans une grande douceur affaissée, une passivité inerte. « Pardon, madame. » C'est une forte femme en caraco de laine exhalant une violente odeur de parfumerie bon marché. Elle est devant la pharmacie, juste devant. Elle empêche de passer. Elle encombre la porte. Quelque chose est peut-être déjà dans son cœur ou dans ses reins, quelque part sous son caraco de laine. Quelque chose qu'elle ne sent pas. « Pardon, madame. » Augustin se glisse avec une sorte d'excuse entre elle et la porte qui tinte d'un tintement vieillot et long. Il y a beaucoup de monde venant de la foire. Le pharmacien a des dents cariées, des rides, une calotte d'un noir sale, une barbe malade. Lui aussi mourra. Il y a des eaux de toilette et des brosses à dents chez le pharmacien dans une vitrine. Augustin les regarde. Le pharmacien dit « Et vous, monsieur ?» Sans quoi Augustin laisserait prendre son tour indéfiniment. Il comprend qu'il devra revenir pour la potion. Il a l'idée de demander un flacon de teinture d'iode. Il doit en falloir pour cette petite piqûre. Il ne sait trop ce dont il a l'idée. Il a besoin de faire effort pour parler. Cette ouate où tout s'étouffe, où tout se résorbe. Augustin voit bien d'où elle vient. Il n'est pas la mère, comme dit le médecin. Il n'est pas bandé et tendu dans l'action. Il est laissé de côté sur le bord du lac noir, en contemplatif, avec toute liberté de sonder son horreur. C'est peut-être de cela que vient cette sensation d'inertie, de brume, d'ouate. De cela ou d'autre chose. Revenir ce soir chercher la fiole de potion, réentendre ces gens parler aux pharmaciens de leur toux, de leur mal au ventre ou rein, tous les essais pour rire, toutes les hypocrisies de la mort. Autant remplir la fiole à la fontaine. Quelques spasmes lui raidissent la gorge, des sanglots ou peut-être des rires. Tout autour de lui a goût de mort. Sa langue s'agite dans la bouche, il lui semble mâcher quelque chose, quelque cendre à goût de cadavre. Il ne sait pas s'il la crache ou l'avale. Ses lèvres se relèvent de dégoût. Peut-être est-il d'autres formes de douleur morale? C'est ainsi qu'est la sienne pour le moment. Il faut se hâter. Les deux pauvres femmes attendent. Que leur dire? Comment sur sa figure mettre l'expression postiche qu'il faut? Il va lentement à travers l'affreuse foule de tous ces gens promis au plus froid silence un jour. Augustin, dit Christine, ton courrier est là. Et l'abbé Bourret est venu te demander, il reviendra.
Ah !
Et trouvant là un sujet auxiliaire, il a été convenable cette fois ? Christine fit un geste d'indifférence. Comment va bébé ?
Toujours le même. Quelques cuillerées de semoule ont passé, il dort. Il dort beaucoup.
Cet odieux tapage ne le réveille pas ? La foire continuait sa rumeur intarissable. Une partie de ce bruit, pleine de cassures et d'éclats, entrait directement par les carreaux, tout droit, sans plus se gêner que la lumière. L'autre partie montait par les planchers. Elle venait des diables ou petits chariots à main que le marchand de grains et de pommes de terre faisait rouler dans la grande cuisine au rez-de-chaussée. Ce son-là, sourd et acceptable par moments, on n'y pensait plus, il s'effaçait, faisait semblant de s'en aller tout à fait. Revenu brusquement, on s'apercevait qu'il n'avait jamais cessé d'être là, et le flux des nouveaux bruits charriait par surcroît tout l'arriéré inentendu. Christine demanda avec la puissance de persuasion des larmes « Le docteur t'a confié quelque chose de spécial ?» Dis, oh, dis, Augustin, il vaut mieux que je le sache, vois-tu, je t'en prie, si c'était une méningite, il souffrirait, n'est-ce pas ?
Il souffrirait des méninges, évidemment.
Il fallait répondre non pas seulement aux mots, mais aux deux mains tordues, aux durs yeux brillants, au tremblement des lèvres, à tout ce qui, dans le corps de Christine, trahissait à la fois la soif et l'horreur de savoir. Prête pour les mots du mensonge, la pensée d'Augustin avait bondi, agile, aux solutions. Il a parlé d'un autre traitement, si rien ne s'améliorait. La ponction de cet après-midi va lui montrer si c'est vraiment nécessaire. Mais il n'en faut pas rester à un seul avis. En dehors de lui, il n'y a personne à consulter ici. On lui demandera qui appeler. »
Il fut sur le point de préciser à Saint-Étienne ou à Clermont. Il se retint, effrayé par cette évocation de distance. Cependant, il le faudrait bien dans quelques heures. Il se borna à dire « ailleurs ».
Tout ce verbiage d'insincérité, croûte protectrice posée sur l'intelligence, gardait une sécheresse révélatrice et comme un parfum de fleurs artificielles. Comment ne s'en apercevait-elle pas? Combien de temps l'horreur de savoir et la frénésie d'espérer l'aveuglerait-elle? Combien durerait le doux et précaire tampon du mensonge? On pouvait le rapetasser, l'épaissir de simulation et de vraisemblance, le doubler de molleton, le poser sur les yeux contre la lumière et sur le cœur contre les coups de couteau. Quel enfantillage! Un jour arriverait bien, où, fatigué, insuffisant, percé par le frottement quotidien des choses dures, il laisserait finalement passer le regard pur et simple de la mort. Augustin avait gardé dans sa main le courrier. Il rejoignit sa chambre. C'était un nouveau paquet d'épreuves à corriger, l'accusé de réception d'épreuves précédentes, des journaux, deux lettres d'universités étrangères, un livre reçu en hommage et des catalogues d'éditeurs, le courrier habituel des professeurs de faculté en vacances. Il le rangea sans le lire. Sur la table s'étalait une liasse de fiches. La dernière datait de 3 jours. Le mysticisme métaphysique du 12e livre, le Dieu qui meut tout par amour, paraît, sinon méconnu, au moins minimisé dans l'exposé d'Hamelin.
Il fit de ses fiches un paquet qu'il plaça au coin gauche de la table, puis, se ravisant, il le mit à droite machinalement. Il sortit, rentra, laissa s'écouler les heures. Le même sentiment d'étrangeté l'enveloppait, comme tout ce qu'il avait vu depuis le matin, dans la rue, chez le pharmacien, dans la maison, partout. Qui donc avait bâclé sa chambre? La grosse Marie, sans doute. Un lit recouvert à la hâte, l'eau des brocs et cuvettes jaillit en marécage mal essuyé sur le plancher. Il aperçut sur la cheminée le verre de cuisine qu'il avait pris la veille en rentrant pour y placer deux roses. Ses bras se levèrent en geste de crucifiement et de désespoir. Choisi dans la panerée la veille au soir, il se rappelait, mi-bouton, mi-fleur, elle s'était en quelques heures changée en rose adulte, pesante et presque fatiguée. Elle s'inclinait déjà. Elle s'inclinerait encore, on les balayerait dans les fumiers. Ce qu'elles avaient représenté, elles ne le représenteraient plus. Mais la masse de ce qu'elles ne représenteraient plus continuait d'exister depuis le matin, en allusion déchirante et radieuse d'une lumière obstinée traversant le goût de mort. Il s'assit face à la table, les deux coudes sur son papier, sans bouger, la tête dans les mains. Il pleura devant le doux et ardent visage aux pâleurs de Magnolia, tel qu'il l'avait vu la veille au soir, à quelques moments privilégiés, bénis, tendres, gracieux, tournés vers lui pour toujours. « Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée, soror, sponsa mea. Lève-toi, mon ami, et viens, car voici que l'hiver est fini. » Ivre d'amertume, il se laissa glisser lentement sur les genoux. Il s'aperçut qu'il suppliait Anne, qu'il lui tendait un cœur qui n'en pouvait plus de tristesse et du désir d'être consolé. Ce qui se trouvait atteint, c'était non pas son amour plus violent encore, s'il était possible, mais le bonheur né de son amour, tout le bonheur d'hier, entré en masse et d'un seul coup dans la zone noire. Il lui était désormais impossible de percevoir directement, en leur fraîcheur première, les anciens moments éperdus. C'était cela, le motif inavoué qui suscitait ce matin, il le voyait bien maintenant, cette obscure fureur devant la mort. Il le voyait parce qu'elle recommençait. Le bruit infernal de la foire, aussi fort comme volume, changeait de timbre et de sens, agressif, coupant. Toute la matinée, il commençait le fléchissement de l'après-midi. On entendait le départ des camions et des carrioles, le beuglement des bestiaux emmenés. Les voies rurales aussi avaient changé, détendues de la préoccupation des ventes et rendues à leur matière première. Elles laissaient transsuder dans une certaine chaleur mouillée un goût de bière et de vin. L'éclat de ses voix gagnait jusqu'aux courettes où les arrières rez-de-chaussée servaient d'annexe en temps de presse pour les débits et les cafés. Augustin revoyait des moments détachés de cette première partie de la nuit avant le cri de l'enfant et le remue-ménage dans les chambres. Il les retrouvait presque intacts, à peine touchés par la mémoire, tels qu'ils ne seraient jamais plus, tels qu'ils eussent continué d'être sans la mort. C'était une splendeur de bonheur, passant le bonheur proprement dit, l'exaltant, l'élargissant à des dimensions qui franchissaient son expérience, mais non pas la douce complicité de l'univers. À travers un orgueil rapetissant et désavoué, c'était les suprêmes réalisations terrestres, la plénitude d'un paradis humain. Et même Dieu s'y joignait, accepté, ayant longtemps frappé aux portes, trouvant la clé enfin, apparaissant comme à l'heure et dans la mesure choisie par l'homme, prolongeant le paysage de sa vie, l'ennoblissant d'éternité. Il dut se dresser juste à temps pour reprendre l'aspect normal, se jeter sur sa toilette, avoir l'air de se laver. Christine entrait. « Augustin, fit-il, C'est de nouveau l'abbé Bourret. Je l'ai mis au salon.
Bien ! Cria-t-il de sa cuvette.
Il pensa que Christine avait dû ouvrir la porte, elle ou sa mère, parmi tous leurs troubles, et il eut tant de pitié. L'abbé était debout dans le salon, tenant son sac d'un noir ecclésiastique. Il tombait dans de bien pénibles circonstances. On craignait que l'état du petit malade fût moins satisfaisant. Augustin allait sans doute partir pour Clermont. Aucun train n'était commode, des voitures peut-être. Il ne poussa pas plus loin ses confidences, n'étant guère en humeur de subir des consolations. L'abbé exprima des sympathies de sens commun, formula des espoirs, rassembla des données d'expérience confuses sur les maladies d'enfants et, subitement, fournit un renseignement opportun. « Mon frère, celui qui fait le commerce des bestiaux, est ici. Il doit repartir ce soir pour Brioude. Je crois, en tout cas, une garde express. Il a une forte voiture. Vous seriez à Clermont demain matin à la première heure et peut-être ce soir. Il ne part pas avant 6 heures. Je ne pense pas qu'il refuse de vous prendre, mais il faut que je lui explique. » La porte s'ouvrit devant Christine. « Augustin, le docteur est là. Monsieur l'abbé, nous aurons bien besoin que vous priiez à l'une de vos messes pour notre pauvre petit garçon. » Le corps noir et le visage froid s'inclinèrent. Un mélange de sourire et d'angoisse sortait par les yeux de Christine et s'en allait vers un abbé dont eût dépendu le sort de l'enfant. « Je vous reverrai, monsieur Méridier. J'aurai l'occasion de vous dire ce que j'ai à vous dire, puisque je descendrai sans doute vers Brioude avec vous. » Comme il s'en retournait, Augustin vit soudain d'où venait une odeur sentie pendant toute la visite, poignante jusqu'à lui couper par 2 fois la parole. Sur une commode à laquelle il avait tourné le dos, jetés en hommage à une statuette en plâtre du Sacré-Cœur, ligotés en affreux bouquet paysan, étouffés, meurtris, ridicules, les pauvres roses achevaient de mourir. « Ah, il dort encore, » dit le médecin, d'un air de satisfaction, comme si le bébé rendait par bonne volonté pure un service qu'on lui eût demandé. « Eh bien, il faut tout de même aller le voir. » Il parlait trop, affectant une indifférence de touche à tout. La foire était bonne, l'ascension des prix de bétail continuait. Il avait eu une peine énorme à se débarrasser des paysans, même pour une demi-heure. Curieuse physiologie paysanne qui les envoie tous consulter pour les foires, qui les rend tous malades à tas de fixes. Il semblait que si le médecin revenait 2 fois le même jour voir son petit malade, ce fut par caprice, pour rien, pour le seul plaisir de bavarder. « Nous allons, dit-il, le déranger le moins possible. »« Non, madame, ne le touchez pas, laissez, laissez. » Ils étaient là, de nouveau, comme ce matin, tous les quatre, parmi des choses identiques, même place du petit berceau, de la toilette d'enfant, de la cuvette et de l'éponge jaune. La terrible confidence n'avait rien changé à ses surfaces. Christine donnait à voix basse quelques indications de température, de durée de sommeil. Augustin entendit un 38 degrés encore qui devait se rapporter au moment où il attendait chez le pharmacien aux environs de midi. Le médecin avait posé une chaise tout contre le berceau. Sa grande main immobilisait l'avant-bras de l'enfant. L'oreille près du petit visage, absorbée par on ne savait quelle comparaison obscure de cette respiration et de ce pouls de bébé, il écoutait avec un plissement bizarre des paupières, rapprochées, comme pour supprimer tout l'inutile de son champ d'attention, aiguiser son regard et voir l'invisible. Ses mains, d'une douceur maternelle, découvrirent le petit malade sans le secouer, supprimant simplement des contacts. Le visage réduit aux paupières blêmes devint accessoire. Le reste du bébé apparut, fondu, ramolli, tourné vers le demi-jour de la muraille,
d'une petitesse désespérée, au-delà de tout secours humain. Pendant ce temps, des mots bons garçons continuaient leur jeu, tentaient de faire croire que l'attitude en chien de fusil où il avait trouvé bébé provenait d'un hasard, d'un caprice amusant des cuisses misérables. « Non ? Tiens, vous ne voulez pas ? Vous préférez ne pas vous asseoir ? Eh bien, on vous laissera comme vous êtes, on vous mettra tout de suite dans le dodo. » Mais personne ne faisait plus attention à ce rideau de mots vains. « Madame, dit le médecin, vous avez une petite casserole et une lampe à alcool pour faire bouillir cette aiguille à ponction ?»« Oh, une casserole très petite, grande comme cela. » La petitesse de la casserole était sans doute aussi garante d'innocuité. La grand-mère s'en fut chercher l'objet désiré, et la forme enfantine, rendue au repos, revint à la somnolence et à ses gémissements. « J'aimerais mieux... » fit le médecin hésitant. L'on ne sut pas tout de suite ce qu'il aimerait mieux. La vieille dame présentait la casserole, un peu d'eau, une lampe à alcool. Il expliqua qu'il fallait laisser bouillir 5 minutes, bien pleine, que c'était une piqûre nullement douloureuse, de quelques secondes seulement. Il regardait sa propre main, la passait sur son menton net, s'inspectait les ongles comme si quelque chose y eût déteint. Après quoi, il dit ce qu'il préférait. C'était que Christine n'y assista pas. Il essuya un refus formel. Christine se mettrait où l'on voudrait, demeurerait immobile, mais suppliait qu'on la laissât là. Elle y resta en effet, comme au Stabat Mater. « Pourquoi pas, après tout, asseyez-vous donc, madame, bien sagement, tout cela est si simple. » On entendit des bruissements d'eau et des flottements interminables d'un lavage de mains, puis les gestes de la technique régnèrent seuls, coupés de mots précis et froids à l'adresse d'Augustin. « Approchez cette petite table, l'oreiller dessus, couchez-y l'enfant sur le côté, couvrez-le, qu'il n'ait pas froid. » Votre main sous le creux poplité. Oui, le jarret. Immobile autant que Christine, ses mains sur l'émouvante chair, Augustin se rappelait quelques mots si différents, tout récents encore. Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon. Un frémissement froid passa sur ses reins. Il voyait un tube de verre, des reflets sur ce tube de verre, une fine ligne de nickel, toutes les choses chargées de répondre un oui ou un non mécanique. L'irrépressible curiosité de la technique médicale refoulait en lui, malgré lui, tout le reste. Il lui semblait voler quelque chose des angoisses dues au bébé. Maintenez-le. Un équilibre d'impulsion et de retenue descend de l'épaule sur son bras, s'arrête juste à la surface des paumes. Sous une brusque secousse de la grosse main précise, l'enfant pousse une petite plainte. Guêpe subtile, la technique a piqué juste. C'est fini. Rejoint au premier reflet par le guet d'Augustin, quelque chose coule dans le tube de verre en filet continu, puis goutte à goutte, puis une dernière goutte solitaire. Le fond du tube emprisonne un fluide d'une pureté de cristal. C'est tout, vous pouvez recoucher l'enfant. À l'autre bout de la pièce, face à la fenêtre, pendant les longs et tendres rites de la remise au berceau, le dur regard médical interroge cette transparence aux vibres des secousses. Durant une sinistre seconde gonflée de sens horrible, Augustin voit deux mains s'écarter, deux paupières qui s'abaissent, et sur tout le visage du médecin, une sorte de fixité funèbre. La pendule sonne 3 heures du soir, à coup espacé et faible d'un mécanisme usé. Christine reborde le berceau. Quelques mots lents, d'une maîtrise magnifique, un peu moins bon que je n'espérais. Besoin d'analyse, naturellement. Oui, le laboratoire de l'Hôtel Dieu à Clermont. Et quelques autres encore dont Augustin ne se ressouvint jamais. Il précéda le médecin qui partait. Toutes choses restaient les mêmes. Les portes grincèrent aux angles d'ouverture où elles grincent toujours. Christine suivit, froide et ardente, et comme si cette minute exaltée doublait son attention générale et lui évitait toute négligence, « Je vous remercie, docteur, vous avez été bon. » Dans la rue, le médecin expliqua. « Cette transparence d'eau cristalline est caractéristique dès avant le laboratoire. Il faut tout de même y aller. Je ne puis voir à l'œil nu les lymphocytes. » Puis, avec netteté, « Je me suis hâté de susciter cette idée de laboratoire et de consultant. Votre sœur aurait l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est en vain. Peut-être 10, peut-être 12 jours. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?» Augustin fit signe qu'il comprenait. « J'aurai Clermont au téléphone dans 3 quarts d'heure. Venez me voir à ce moment. Ces jours de foire sont terribles. » Il abandonna Augustin à lui-même. Celui-ci tourna lentement autour de lui, regarda l'heure, remit la montre dans sa poche, émit une expiration longue mêlée de sifflements, se dit qu'il allait falloir chercher l'abbé. L'idée de cette recherche cheminait parmi d'autres qu'il essayait de remuer, lâchait, reprenait avec une fatigue immense. Il pensait aussi à Christine. Ça va bien changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Il ressiffla son sifflement mêlé de soupirs, puis il s'aperçut qu'il venait de parler au pauvre bébé, déjà comme s'il n'était plus. Une jeune femme le fixa. Il s'en aperçut. Elle porta ses yeux sur un autre point sans les baisser. « Qu'est-ce qu'il apprend, celle-là? Elle doit croire que j'ai mal fait ma foire, perdu l'argent. » Des mots de sa sœur lui revenaient en mémoire. « Bébé, bébé fera les compliments qu'il faut. » Des câlineries italiennes sortaient sur des rythmes légers. « Il bambino, piccolino, dorme sogna nel nettino. » Bébé gazouillait, il riait. Encore tous ces verbes au passé. Il arracha de lui ses souvenirs. L'abbé, la gare, les trains supplémentaires, voilà à quoi il fallait penser. L'abbé avant, non, la gare. Il n'était pas sûr que ce frère de l'abbé voulût le prendre. L'abbé n'avait pas l'air si rassuré. Il changeait les décisions et les emplois du temps en reclassement harassé. Un ardent petit soleil blanc-jaune de vent de midi chauffait comme une lentille. Où avait-il déjà entendu des plaintes sur cette sorte de chaleur-là? Recrue de fatigue, il marchait parmi les tas de plumes, de légumes rejetés, de pourriture, de paille, d'œufs cassés, charriés par le flux mercantile, déposés là sur les trottoirs, sur la chaussée, par le retrait des eaux. Oui, où donc avait-il entendu ces plaintes? Elle lui semblait déjà ancienne, inexaucée, avec une nuance spéciale de désormais inutile. Il y avait aussi 2 mains jointes et la table de la salle à manger. Ah oui, il se rappelle. C'était quand on commençait de soigner le petit bébé pour la prétendue entérite. « Cette chaleur, disait Christine, ne finira donc pas ?»« Eh bien, elle peut continuer maintenant. » Ce matin, le choc de la mort, une longue stupeur écrasante. Ce soir, des réactions fragmentaires et médiocres. Pourquoi? Oui, pourquoi? La gare se révéla beaucoup moins facile à consulter qu'Augustin ne croyait. L'encombrement des guichets le fit renoncer à rien demander de ce côté-là. Des affiches d'horaires malicieuses et hors de portée se cachaient en outre derrière un monceau de grands paniers à volaille et d'emballages à claire-voie, plein de porcelets. Des poulets écrasés, privés d'eau, stoïques, dédaignaient de se plaindre et haussaient sur leurs yeux leurs paupières inférieures, comme l'abbé Bourret. D'autres, portés par des paysans, sortaient une tête inerte que la marche de leur porteur rejetait en arrière. Posés sur le sol parmi les immondices et les crachats, ils faisaient comme les hommes, ils attendaient la mort. Contournant ces amoncellements, Augustin gagna un coin où il put lire les heures de train sur un indicateur local à couverture verte, au milieu des réclames de maisons de commerce et d'hôtels. Des beuglements de bestiaux et tamponnements de wagons retentissaient sur les voies de la petite vitesse.
Neusargue. Oui, il y a un train. On arrive à 20h17. Mais on couche là. Le lendemain, un train atteint Arvant à 8h30. Mais celui d'Arvant sur Clermont est parti à 8h22. Phénomène bien connu. Voyons de l'autre côté. Mauriac, Bord et Gurande. Il y a un départ, mais dans 20 minutes. C'est même pour cela que tous ces gens attendent. Augustin n'aurait jamais le temps de revoir le médecin. Inutile d'essayer. De rudes auberges, des draps râpeux, passent en fantôme entre les chiffres et aussi les halètements des locomotives dans des gorges schisteuses et des paysages de nuit. Si la voiture du marchand de vaches le met à Brioude avant 22h47, il aura le soir même l'express de Clermont. À défaut, un interminable train mixte partant très avant l'aube l'y déposait encore à 8h30 du matin. C'est la solution. Lugarde, Bord en Bord, nom romantique de son enfance. Sa mère en parlait souvent autrefois. Il faisait penser aux planèzes, aux pèlerinages, aux grands domaines, à la Marie de chez nous. Il la vit. Souvenir grêle, d'avant les plénitudes, merveille d'une saison de vacances, partie d'un passé déjà plein de morts. Il remontait aux choses très anciennes, vierges de drame, le plus loin possible d'aujourd'hui. Un train de marchandises défila interminablement, les wagons se passant de l'un à l'autre des heurtements géminés. Ainsi descendaient des montagnes les grands courants économiques, faits de passions humaines mécanisées, tressés en quelque chose d'autre, paillassons où rien ne reste du libre jonc des eaux. Ils survivaient au décès, les englobaient dans leur jeu. Ils savaient comment faire. Ils continuaient leur cours déterministe, des pères aux fils en contournant la mort. Là, dans cette gare, Augustin eut de revoir Anne une grande soif soudaine, douce et déchirante, une agonie de désir qui balaya tout le paysage qu'il avait sous les yeux et l'envoya souffrir là-bas, dans celui où il n'était pas. Resté à l'arrière-plan pendant la plus grande partie de la journée, tiède, tendre et discret, ce désir connaissait cependant des paroxysmes. C'en était un. Il ne lui apparaissait qu'en ce moment même, mais il avait en réalité poussé devant cette boîte aux lettres de gare du souvenir des lettres jetées la veille et d'une sorte de torsion de son pauvre cœur. Un quart d'heure encore, avant d'aller revoir le médecin. Un quart d'heure à employer de la gare à l'auberge sur le parcours indiqué par l'abbé. Devant lui marchait un gros homme. Un employé l'accompagnait qui serra d'un air entendu son énorme main rousse. Augustin reconnut l'homme du matin, la grande blouse noire, les admirables chaussures, la loupe sur l'œil et cette mâchoire de bête bien nourrie dont la force sommeille sous la graisse. Qu'était-il venu faire? Signer les papiers couleur de paille des expéditions de bestiaux? La nuque lourde et les épaules évoquant les fardeaux qu'elles auraient dû porter roulaient avec une sorte de houleuse souveraineté due à ce que le personnage précisément n'en portait plus. L'homme, s'arrêtant devant de nouveaux emballages à claire-voie, plein de porcelets roses. Une luxueuse et cavalière odeur de cigares
se maria au Roland Porcin. Une demi-heure plus tard, Augustin savait ce qu'il désirait savoir. D'abord, aucun garage ne lui louerait de voiture. Pensez-vous, à cette heure, fallait le dire ce matin, demain si vous voulez, mais ce soir, toutes nos voitures sont sorties. Un point fixé, et d'une. Ensuite, le confrère de Clermont l'attendrait vers midi, recevrait l'analyse faite le matin même, partirait sur le champ pour le Cantal, il serait vers 3h30, rentrerait chez lui à 9h du soir. Augustin ruisselait de sueur, une chaleur de fièvre au fond de la gorge, une grande pesanteur dans les jambes. Le désir de s'étendre et un espace désert, jauni, vidé, étalé devant ses regards par la fatigue et le chagrin. Quand il rentra, son sac de voyage était ouvert sur une chaise, près de lui un petit tas de linge et de laine et les préparatifs d'un repas froid. Sa mère commença les explications. « Augustin, je t'ai mis 3 mouchoirs, un gilet de flanelle, une chemise de nuit, faux col, manchette et la trousse de toilette. Maintenant, quand tu voudras manger... » C'était le portrait de petit voyage, avec les couleurs d'il y avait 40 ans. « Si les buffets sont fermés, si tu as faim en route, je t'ai mis des madeleines aux œufs et du café au lait. C'est très nourrissant. Je n'ai rien placé encore pour que tu regardes ce qu'il y a. » Plus fatigué que lui, non comme lui, d'une lassitude subite et momentanée, mais de la permanente fatigue de la vieillesse dont mourait son corps, elle la dominait en cherchant son souffle. Que faire ? Conseiller le repos ? Autant valait lui tendre une chaise. Comme si tout ne devait pas recommencer après l'enfantillage de ce secours. Christine l'affecta d'une autre manière. Comme Augustin remuait les mots en carton-pâte, expliquant qu'il comptait ramener vers 3 heures le médecin consultant, homme très compétent, bon espoir, 3 semaines encore, ajoutant, pour plus de crédibilité, des remarques sur l'horaire des trains, elle vint lui serrer entre les mains ses maigres et hautes épaules et se mit à pleurer contre le revers de son veston. Hélas, il lui sembla qu'elle pleurait d'un air dont toute espérance n'était pas bannie. Il agita des « Allons, voyons, il ne faut pas !» bouillie dont sa vieille mère arrêta la coulée. « Augustin, nous allons commencer la neuvaine à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Veux-tu t'y joindre avant de partir ?» C'était la dévotion nouvelle, poussée sur l'un de ces incessants bourgeonnements de saints qui paraissaient à Augustin, quand il dosait dans les crépuscules de ses théories tous les pour et tous les contre, le phénomène le plus impressionnant de la vie catholique, objet des explications les plus insuffisantes de la part des psychologues dits positifs. Ce qui touchait le plus, peut-être, était son humble utilitarisme, se rappelle des mots si simples « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Cette très vieille demande de toutes les âmes, les chrétiennes et les autres, d'être allégées de ce que la terminologie catholique appelle les croix. Mais il éprouva dès ce moment, en une lucidité acide et accablée, le désespoir de ces deux femmes quand expirerait le laps de temps naïvement alloué à la venue des lettres de grâce. La sommation de guérir était pour dans 9 jours. Il est vrai qu'on y entendait aussi parler de mérite gagné par nos propres souffrances, joint au mérite de Jésus et des saints. Et toutes les paraphrases du mot « éternel » « Que ce calice s'éloigne de moi, néanmoins que votre volonté soit faite et non la mienne. » Augustin se dit alors que le 9e jour pouvait venir pour ces femmes et pas plus que le grondement finissant de la foire, les dernières convulsions de la douleur
et de la mort ne romprait leur vie intérieure.
Il prit le temps, avant de partir, de passer 5 minutes dans sa chambre et d'écrire d'un seul jet « Madame, nous avons les plus graves inquiétudes pour la santé de mon petit-neveu. Je vais à Clermont chercher un consultant. Comment vous exprimerai-je mon émotion infinie? Je ne le sais, ni dans combien de jours. À l'hommage de mon profond respect, oserai-je joindre, madame, toutes mes tremblantes gratitudes? » Il ne relut pas, il eut relu sans fin. Mais les mots s'agitaient dans sa tête. Trop de réserve? Pas assez de réserve? Il ne savait pas. Infinie, tremblante, les mots ne lui plaisaient pas. Sa timidité héritée s'exprimait en des tons froids, détestait tout ce qui ressemblait à un jour sur son cœur. Il ferma cependant l'enveloppe sur cette lettre obscure, d'abord parce qu'il n'avait pas le loisir d'en écrire une autre, puis parce qu'elle était vraie. Ensuite, parce qu'il tremblait devant bien des choses, y compris la mort, et à cause du remords qu'il sentait d'y mêler son bonheur. En partant, il jeta un dernier regard sur ce qui restait des roses.